VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du mercredi 27 avril 2016. Au sommaire ce soir...
Dialogue inter-burundais, Bujumbura exige d'être consulté d'avance sur les participants.
Mali, des mitrailleuses volées dans un dépôt d'armes à Bamako. Notre correspondant sur place fera le point.
Au Cap-Vert, 11 hommes, dont 8 militaires, tués par balles.
Présidentielle américaine, au lendemain d'une écrasante victoire dans 5 États, Donald Trump revendique son droit à l'investiture et donne les grandes lignes de sa politique étrangère.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
À la garde nationale du Mali, 26 armes volées et des pistolets mitrailleurs dans les dépôts d'armes. En plus, une vingtaine d'armes ont disparu au niveau du commissariat des armées, ce qui fait au total une cinquantaine d'armes dans la nature. L'inspection des armes et la police militaire mènent une enquête. Kassim Traoré.
Depuis l'annonce de la réintégration des ex-combattants dans l'armée, on assiste à toutes sortes de gymnastiques, du côté des femmes, de même que des groupes armés. Chez les militaires maliens, on voit qu'il y a des vols d'armes. C'est ainsi qu'au niveau de la garde nationale du Mali, 26 pistolets mitrailleurs, communément appelés des PM, ont disparu des dépôts d'armes. Au commissariat des armées, c'est environ 25 armes qui sont introuvables. Au même moment que ces vols s'opèrent au niveau de l'armée malienne, des chefs rebelles sont en train de payer des armes pour donner à des gens qui ne sont pas des combattants. Tout cela parce qu'ils ont fourni des listes de combattants fictifs dans le cadre de la réintégration d'ex-combattants dans l'armée malienne. Les rebelles achètent des armes pour deux raisons. Primo, armer les remplaçants des éléments morts ou qui sont retournés dans leur pays respectif. Secondo, fournir des armes aux nouvelles recrues qui ont acheté des cartes de combattants dans les régions nord. D'autant plus que le cantonnement où la réintégration s'est fait sur la présentation d'armes. Suite à ces vols d'armes, la hiérarchie militaire avait suspendu le chef d'état-major de la garde nationale, de même que le commandant de ce groupement. Nous apprenons que ces décisions ne sont pas appliquées, car le chef d'état-major de la garde nationale continue de travailler tranquillement dans son bureau. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Pour parler inter-burundais, le gouvernement de Bujumbura n'entend participer au dialogue de sortie de crise que s'il est consulté, notamment sur les participants. Les autorités réagissent ainsi à l'annonce par les médiateurs internationaux d'une reprise des discussions à partir d'aujourd'hui, plutôt à partir de lundi, à Arusha, en Tanzanie. Nous y consacrerons un magazine en seconde partie d'émission.
Les relations entre Abidjan et Ouagadougou sont intactes. C'est du moins ce que prétend le chef de l'État burkinabé, Rochemark Christian Kabore, en dépit du mandat d'arrêt international lancé par la justice burkinabé contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro. « Ce sont des relations que nous ne pouvons pas rompre », a-t-il déclaré à la télévision.
Terrorisme dans l'extrême nord du Cameroun. Une jeune kamikaze transportant 5 explosifs a été interpellée la nuit passée à Djakana, près de la frontière avec le Nigeria. Âgée de 20 ans, elle a déclaré être partie du Nigeria accompagnée d'une autre jeune femme et que toutes deux cherchaient des lieux de regroupement pour se faire exploser. C'est ce qu'a indiqué le gouverneur de la région à l'AFP. À noter que les islamistes de Boko Haram commettent régulièrement des attentats dans cette région.
Et c'est dans ce contexte que le chef de la force régionale formée pour combattre Boko Haram dénonce la lenteur de la communauté internationale à concrétiser le soutien promis. Tout ce que nous avons reçu, ce sont des moyens de communication et 11 véhicules, a déploré le général Hamidi Adeosun à Niamey, le chef de la force multinationale qui regroupe des soldats du Nigeria, du Tchad, du Cameroun et du Niger, a toutefois salué l'étroite coordination entre les troupes déployées sur le terrain.
11 hommes, dont 8 militaires, ont été tués par balle mardi au Cap-Vert dans un centre de télécommunication au nord de la capitale, Praia. Les autorités sont toujours à la recherche du suspect, un soldat qui avait des motivations personnelles, selon le gouvernement. Lionel Gaïma. On reviendra un peu plus tard, si c'est possible, sur ce reportage de Lionel Gaïma, Afrique du Sud.
C'est aujourd'hui le 22e anniversaire des premières élections multiraciales dans le pays. Le président Jacob Zuma exclut toute émission anticipée. Il répond ainsi aux centaines de personnes manifestant dans les principales villes du pays pour réclamer son départ.
On revient au Cap-Vert.
Des motivations personnelles sont supposées être la cause de ces événements et nous excluons l'idée qu'il est question d'une attaque contre l'État du Cap-Vert. Les autorités prennent toutes les mesures possibles pour faire la lumière sur cette affaire. La fusillade s'est produite à Montechota, où se trouve ce centre de télécommunications gardé par l'armée. Outre les 8 militaires, 2 techniciens espagnols et un civil capverdien ont été tués. Les victimes sont tous des hommes âgés de 20 à 51 ans. Le suspect, un soldat qui travaille dans ce centre militaire, est porté disparu et il y a des forts indices qu'il soit l'auteur de cette attaque, souligne le gouvernement. Les autorités ont appelé la population calme en précisant que, contrairement à des rumeurs, il n'y a pas eu de fusillade dans la ville de Praia et que les aéroports fonctionnaient normalement.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Salah Abdeslam, un des principaux suspects des attentats de Paris, a été remis aux autorités judiciaires françaises. Arrêté le 18 mars à Molenbeek, à Bruxelles, il sera incarcéré et mis en isolement dans une prison de la région parisienne. Éric Manirakiza.
C'est le seul survivant des commandos parisiens du 13 novembre, responsable des attentats les plus meurtriers en France. Mais à ce jour, le rôle exact que Salah Abdeslam devait jouer dans ces attaques reste un mystère. Après son arrestation le 18 mars à Molenbeek, quartier de Bruxelles où il a grandi, ce petit caïd devenu djihadiste a minimisé son rôle, arguant qu'il voulait simplement se faire exploser au Stade de France, puis a abandonné son projet avant de se murer dans le silence, a déclaré le procureur François Molins. Salah Abdeslam a été donc transféré ce mercredi en France sous haute protection et sera incarcéré dans un quartier d'isolement dans une prison à une trentaine de kilomètres au sud de Paris. Selon le ministre français de la Justice, Jean-Jacques Uvoas, une équipe de surveillance dédiée va s'occuper de lui et les composés de surveillants aguerris formé à la détention des personnes réputées dangereuses. Devenu ennemi public numéro 1 en France, Salah Abdeslam sera défendu par l'avocat Franck Berton, qui s'est déjà illustré dans plusieurs affaires judiciaires majeures en France.
Primaire américaine, le républicain Donald Trump et la démocrate Hillary Clinton se sont rapprochés de l'investiture de leurs partis respectifs après les grandes victoires qu'ils ont remportées hier dans 5 États de l'Est. Idrissa Seloudi a fait le point.
Donald Trump se considère désormais comme le candidat naturel des républicains. Nous allons récupérer notre pays, nous allons restituer à l'Amérique sa grandeur. Pour M. Trump, la cause est entendue. Ses derniers rivaux, Ted Cruz et John Kasich, doivent maintenant jeter l'éponge. La même pression s'applique à Bernie Sanders, le rival de Mme Clinton, qui pense déjà à l'élection générale de novembre. Nous allons imaginer un demain où, a-t-elle dit entre autres, l'amour l'emportera sur la haine. Et pour le verbe emporter, elle a utilisé délibérément en anglais le mot Trump.
Au lendemain de son éclatante victoire aux primaires du 26 avril, le magnate l'immobilier a dévoilé à la Nation ce mercredi son programme en politique étrangère. Bagessi Koura.
This will all change when I become president. To our friends and allies, I say America is going to be strong again. America is going to be reliable again. It's going to be a great and reliable ally again.
Donald Trump a prononcé son discours dans la capitale fédérale américaine où il a beaucoup critiqué l'administration de Barack Obama et promis de mettre toujours au premier plan les intérêts de l'Amérique s'il devient président des États-Unis. D'autre part, le sénateur Ted Cruz a donné rendez-vous aux journalistes ce mercredi pour une annonce mystère qui pourrait être la nomination de son colistier ou de sa colistière pour la présidentielle du 8 novembre.
Un convoi de l'ONU, du Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est entré pour la première fois depuis un an à Talbissé, une ville du centre de la Syrie, aux mains des rebelles. Selon le CICR, 35 véhicules sont arrivés aujourd'hui à Talbissé avec des colis alimentaires pour 12 000 familles, du matériel pour le forage et des stations de pompage, des machines de dialyse, des médicaments, des chaises roulantes, des kits pour l'accouchement et de la farine. Un autre convoi de 14 camions doit s'y rendre dans les prochains jours. Cette ville située dans la province rétive de Homs est assiégée par l'armée depuis 2013.
Un attentat suicide s'est produit ce mercredi sur un site touristique de la ville de Bursa, dans le nord-ouest de la Turquie, tuant la kamikaze et blessant au moins 10 personnes. C'est ce qu'ont rapporté les chaînes de télévision. L'explosion s'est produite aux abords de la grande mosquée Ulukami, important symbole de cette ville, selon la chaîne d'information CNN Turc.
Le président des États-Unis, Barack Obama, se rendra la semaine prochaine à Flint, ville du Michigan, dans le nord, secouée par un scandale sanitaire retentissant lié à la contamination de l'eau au plomb. Les services du gouverneur Rick Snyder avaient décidé, par mesure d'économie, d'utiliser en avril 2014 pour les réseaux de distribution d'eau de Flint, la rivière locale, pourtant acide et polluée. L'eau très corrosive, a rongé les conduits en plomb, exposant les habitants au saturnisme. Quelque 57% des 100 000 habitants de Flint sont noirs et plus d'un tiers vivent sous le seuil de pauvreté.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Quelques nouvelles économiques avec John Lennon.
Qatar Airways compte acquérir entre 25 et 49% du capital de la Royal Air Maroc. Baker Al-Baker, le directeur de la compagnie qatari, l'a annoncé cette semaine. Une entente a eu lieu sur cette participation entre les gouvernements marocains et qatari, a déclaré Baker Al-Baker à l'agence Bloomberg en marge du salon spécialisé Arabian Travel Market qui s'achève demain à Dubaï. Un peu plus de 500, c'est le nombre de participants attendus à Harare, la capitale du Zimbabwe, du 3 au 4 mai prochain. Ce sera dans le cadre du troisième forum pour le renforcement des capacités économiques en Afrique. Il s'agira pour les participants de débattre des voies et moyens pouvant permettre aux entrepreneurs de réaliser de bonnes performances économiques sur le continent. À Lomé au Togo, le Radisson Blue Hotel du 2 février rouvre à nouveau ses portes après environ 2 ans de travaux. Le président Faure Gnassingbé a procédé hier à la coupure du ruban symbolique, marquant ainsi la réouverture officielle de cet hôtel de 30 étages et 320 chambres et qui a été concédé par l'État togolais au groupe mauricien Kalyan Hospitality.
Pas de course, on enchaîne sur les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgan.
Seconde demi-finale de la Ligue des Champions ce soir en Europe.
Implacable rouleau compresseur en Espagne et en Europe, l'Atlético Madrid espère continuer ce soir à bousculer l'ordre établi en accueillant le Bayern Munich.
Hier, lors de la première finale, le Real a été accroché à Manchester.
0-0, score nul et vierge, en l'absence de Cristiano Ronaldo blessé, le Real Madrid n'a pas réussi à déstabiliser une équipe de Manchester City accrocheuse. Tout reste à faire au match retour dans une semaine. Manchester City peut remercier son gardien Joe Hart, auteur de parades décisives en fin de rencontre, qui laisse le suspense entier avant le match retour. Ce sera mercredi à Santiago Bernabéu.
Les demi-finales allées d'Europa League promettent spectacle et suspense demain.
Avec le déplacement du FC Séville, double tenant du titre au Shakhtar Donetsk, le club ukrainien et celui de Liverpool à Villarreal.
La diplomatie par le football en Asie.
Nous devrions rassembler tout le monde autour d'un terrain de foot. Je suis prêt à aider de quelque manière que ce soit, a déclaré Gianni Infantino à la presse au cours d'un déplacement en Corée du Sud. Le nouveau président de la FIFA a fait cette annonce alors que le dernier match amical entre les deux Corées remonte à 2005. C'était Morgan à Séoul.
La flamme olympique des Jeux de Rio de Janeiro a été officiellement remise au Brésil aujourd'hui à Athènes.
Oui, il était 15h45, temps universel. Le président du comité olympique hellénique, Spyros Kapralos, a passé la flamme au président du comité d'organisation des Jeux de Rio, Carlos Neusmann, lors d'une cérémonie au stade de marbre d'Athènes, théâtre des premiers Jeux olympiques modernes en 1896. La flamme rejoindra le 3 mai Brasilia, la capitale brésilienne, via la Suisse.
Et enfin, la NBA, championnat de basket nord-américain.
Atlanta a repris les devants face à Boston en s'imposant largement 110-83 lors du cinquième match de la série du premier tour des playoffs, ce qui l'amène à une victoire de la qualification. Toronto a su rattraper un retard de 13 points pour battre sur le fil Indiana 102-99. Toronto qui prend l'avantage dans ce duel à une victoire de la place en demi-finale de conférence.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guériac et Chérubin Gabi Dorcy dans votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale, le Burundi.
Et bientôt la fin de la crise interburundaise. La facilitation tanzanienne compte mener un dialogue inclusif entre les protagonistes. Les discussions devraient avoir lieu du 2 au 6 mai à Arusha, lieu symbolique puisque c'est dans cette ville qu'avaient eu lieu les négociations de paix sur la guerre civile burundaise il y a 16 ans. Aujourd'hui, on s'interroge sur la marge de manœuvre de cette facilitation tanzanienne face à un gouvernement qui campe sur ses positions. Le régime de Bujumbura refuse en effet de s'asseoir avec ceux qu'il qualifie de terroristes. De son côté, l'opposition confirme que la seule issue à la crise reste le dialogue. Reportage de Christophe Nkurunziza, notre correspondant à Bujumbura.
Des balais diplomatiques se sont succédés l'année dernière et le début de cette année dans la capitale Bujumbura, après la répression des manifestants contre le troisième mandat contesté du président Pierre Nkurunziza. Tour à tour, les délégations de la communauté est-africaine, de l'Union africaine, de l'Union européenne et des Nations unies se sont rendues à Bujumbura pour appeler les autorités à trouver une issue à la crise à travers un dialogue inclusif. Mais la réponse a toujours été la même. Le gouvernement burundais ne discutera pas avec les criminels, même si l'invitation leur est arrivée tardivement mardi soir. Le porte-parole du président burundais ne confirme pas que le gouvernement sera à Arusha dans une semaine. Willy Nyamitwe.
L'invitation nous est parvenue. C'est difficile à mon niveau et à l'heure qu'il est de vous confirmer quelle sera la réponse du gouvernement. Parce que le gouvernement doit d'abord analyser cette invitation, trouver aussi une explication au fait qu'il soit le dernier à être convié à cette session inaugurale du dialogue inter-burundais à l'extérieur. Ce n'est pas le gouvernement qui exclut certaines personnes, c'est la loi, c'est le droit. Ceux qui ont pris la voie de la violence sont exclus par les lois burundaises, mais aussi sont exclus par les différentes résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Et pour l'opposition burundaise réunie au sein de la plateforme Sénared, qui a dernièrement changé sa présidence et qui lutte pour le respect des accords de paix et de réconciliation d'Arusha, tôt ou tard, le gouvernement burundais devra s'asseoir avec les opposants. Charles Nditije, président du parti UPRONA, une aile non reconnue par les autorités de Bujumbura.
Et s'il fallait parler de putschistes, je crois que le premier putschiste, c'est M. Nkurunziza qui a fait un putsch constitutionnel en brigant troisième mandat et contre la constitution, contre l'accord d'Arusha. La voie qui sauve les uns et les autres, qui sauvegarde la paix et la sécurité, c'est la voie du dialogue, la voie des négociations. Qu'il le veuille ou non, et tôt ou tard, il finit par comprendre qu'il n'aura d'autre choix que d'accepter de négocier. Et dans pareil cas, on ne négocie pas avec ses amis, on négocie et précisément avec ceux-là et avec vous êtes en conflit pour des raisons politiques.
La crise au Burundi s'aggrave de plus en plus ces derniers temps avec l'assassinat en moins de 36 heures de trois militaires haut gradés. L'Union européenne demande urgemment la reprise d'un dialogue inclusif avec toutes les parties concernées par la crise burundaise qui a fait, selon la FIDH, Fédération internationale des droits de l'homme, plus de 700 morts et plus de 4300 prisonniers, sans oublier les centaines de millions de réfugiés éparpillés sur tous les quatre continents. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA. Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, coup de projecteur sur le premier anniversaire de la grave crise politique et humanitaire au Burundi, déclenchée par le troisième mandat contesté de Pierre Nkurunziza à la tête du pays. Un an après, l'espoir d'une sortie de crise est-il toujours permis? Peut-on parler d'un échec de la communauté internationale? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Conscient de la valeur du méthane, dont regorge le lac Kivu, situé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, ainsi que du danger qui se rattache à sa non-exploitation, ces deux pays viennent de mettre en place un comité de surveillance pour une exploitation commune et sécurisée du gaz méthane afin de produire de l'électricité. Charlie Kasereka de Goma pour des détails.
Les experts de deux pays installés aujourd'hui seront chargés de faire le monitoring pour une exploitation sécurisée du gaz méthane dans ces lacs partagés entre le Rwanda et la RDC. Pour les ministres congolais des hydrocarbures, M. Ngoyi Mukena, l'exploitation du gaz pour la RDC n'est qu'une question de jours maintenant.
Comptez sur le gouvernement de la République qui réunit maintenant les paramètres nécessaires pour emboîter le pas aux voisins d'en face. Comme vous le savez, ce gaz méthane doit être extrait de façon professionnelle pour produire fournir de l'électricité afin de pallier au déficit énergétique de la sous-région. Nos voisins d'en face ont déjà fait le pas.
Côté rwandais qui exploite et utilise depuis plusieurs mois ces gaz dans des ménages, sa déléguée estime que cette collaboration va encore renforcer et produire des bons résultats pour les deux nations.
Vous comprenez alors que ce comité doit être assez fort pour servir de fondation d'une grande et longue initiative.
La société civile du Nord Kivu, quant à elle, pense que ce projet va vite contribuer à la conservation de la faune dans les parcs de Virunga et ses environs, où les fabricants de charbon des bois menacent cet environnement. Thomas Dake Mouiti est le responsable de cette structure ici en province.
Mettons le gaz dans les outils pour que ce gaz serve comme alternative dans les ménages, ce qui contribue significativement à la réduction de l'utilisation du bois du parc.
Sur ces 2370 km², les experts congolais et rwandais redoutent les effets de la forte concentration en gaz dans les jours à venir, d'où la surveillance de ces gaz dans les lacs Kivu reste une préoccupation très importante pour la sécurité des deux nations. Le lac Kivu est l'un des trois lacs au monde, avec les lacs Nyos et les lacs Monin au Cameroun, qui renferment des fortes concentrations en gaz. Charlie Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique.
Le délestage d'électricité est devenu monnaie courante au Mali, dans les villes principales comme secondaires. La société chargée de la gestion d'électricité dit que le phénomène est dû à deux problèmes majeurs. L'état des équipements de la société qui ne supporte plus la chaleur et le déficit d'électricité. Kassim Traoré nous en dit plus dans ce reportage.
En cette période de grande chaleur, où la température peut aller à 45 degrés à l'ombre à Bamako, c'est pendant cette même période que le délestage d'électricité devient fréquent au Mali. Les populations ne savent quoi faire, comme cet habitant de Daoudabougou.
Moi, je suis Salif Bengali. Le délestage est devenu un problème crucial à Bamako. On appelle ça un délestage sauvage. La coupure d'électricité n'est même pas prévue. À n'importe quelle période, il faut s'attendre à une coupure. Et généralement, quand il y a coupure tout de suite, le matin, et il ne faut pas s'attendre tout de suite au retour du courant. On ne sait même pas souvent si réellement l'EDM est consciente de ce qui se passe dans notre quartier, précisément à Daoudabougou.
Sans électricité, rien ne marche à Bamako. Pas d'eau fraîche, pas de poissons frais, et il y a trop de difficultés chez les tailleurs, les frigoristes, les menuisiers et autres réparateurs. Dans les salles de classe, la situation devient très tendue.
Moi, c'est Karim Demia, je suis le directeur du lycée technique Gerson Dambélé. Nous sommes actuellement très éprouvés vraiment par ces délestages. Imaginez-vous, nous sommes avec les enfants, des fois on n'a pas d'eau et tous les travaux c'est sur la base de l'électricité. Et souvent on est coupé totalement de l'électricité, donc c'est vraiment désagréable. Nous sommes très inquiets par rapport à la situation parce que nous sommes en danger. Les appareils dont nous disposons ici ne sont pas du tout sécurisés, donc il y a des problèmes de transport.
Chona Machekone, directeur de la communication de la société Énergie du Mali.
Des coupures qui sont loin d'être volontaire. Vous savez, il y a une fréquence de coupure d'électricité actuellement. Cela est dû à deux facteurs. Le facteur de la grande chaleur qui éprouve les machines, parce qu'il faut rappeler que nous sommes encore à 60% de production d'électricité par le thermique, c'est-à-dire par des groupes électrogènes qui ont un moment de maintenance, un moment de révision, toute chose qui fait que vous êtes obligé de les arrêter pour au moins changer des filtres, l'huile, etc., etc.
Le second problème à EDM, ça s'appelle déficit, car il y a plus de demandes d'électricité que de courant disponible.
Déficit dans la mesure où l'offre est inférieure à la forte demande. Donc nous sommes en déficit de production et au moment où même où tout le monde a besoin d'électricité, mais vous êtes obligé de procéder par des coupures plus ou moins longues. On s'en excuse, mais ce n'est pas faute d'engagement ni faute de professionnalisme d'une mission de service public. Nous sommes tous engagés pour mener cette action au service de la clientèle.
Lors de son passage à la question d'actualité de l'Assemblée nationale du Mali, le ministre de l'Énergie a demandé aux Maliens de prendre leur mal en patience en attendant la fin de certains travaux d'extension de la société EDM SA. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Lors d'une réunion du Conseil de sécurité, l'envoyé spécial de l'Union africaine pour le Sahara occidental a pressé l'ONU de résoudre le conflit sur le Sahara occidental. Joaquin Chissano a par ailleurs déploré les expulsions décidées par Rabat, estimant qu'elles constituent un dangereux précédent pour d'autres missions de paix. Le Conseil doit renouveler avant fin avril le mandat de la MINURSO. Pour une analyse sur cette situation inextricable du Sahara occidental, Nathalie Barge a joint l'historien Mamadou Diouf à New York.
Dans la situation actuelle, deux choses semblent peser négativement sur cette situation. D'une part, les Nations Unies n'ont pas les moyens d'imposer à Rabat la tenue d'un référendum. Et d'autre part, en se retirant de l'Union africaine, Rabat s'est mis dans une situation où le dialogue est impossible. L'Union africaine est incapable de peser sur cette question en établissant une relation directe avec le Maroc. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'institution qui permettrait à l'Union africaine de transformer sa décision en une réalité. Le fait que l'Union africaine a reconnu, en fait, le mouvement sahraoui dirigeant.
La MINURSO doit renouveler son mandat. Alors, selon vous, quelle serait l'issue pour que cela puisse se faire, ou est-ce qu'il y a un risque finalement qu'il y ait non-renouvellement?
Je vois pas comment il n'y aurait pas de renouvellement, mais ce renouvellement ne s'inscrit pas dans une dynamique qui est une dynamique de résolution du conflit. Ça pourrait être très certainement un renouvellement qui permettrait de satisfaire l'Union africaine, de satisfaire l'Algérie, mais qui n'aura jamais de conséquences sur le terrain. Parce que ce qu'il faudrait, c'est reprendre la question après tellement d'années. Il y a des Marocains qui se sont installés au Sahara depuis très longtemps. Il y a, vous savez, une nouvelle génération de Sahraouis. Donc, il serait important de voir qui devrait participer à ce référendum, qui organiserait ce référendum et comment, en fait, on pourrait convaincre les Marocains de l'organisation de ce référendum.
Mais alors, jusqu'ici, est-ce que vous avez le sentiment que quelqu'un puisse convaincre le Maroc d'un quelconque référendum ?
Non, parce que probablement l'un des acteurs qui aurait pu jouer un rôle, c'est l'Espagne. Parce que c'est l'échec de la décolonisation du Sahara espagnol qui a créé cette situation. Et l'Espagne pourrait jouer un rôle à travers l'Union européenne et effectivement arriver dans une certaine mesure à rouvrir le dossier en prenant en compte les éléments qui sont les éléments qui ont été produits par la présence marocaine depuis au moins 30 ans.
Mamadou Diouf, directeur de l'Institut d'études africaines à l'Université Columbia de New York. Pour écouter l'intégralité de cet entretien, rendez-vous sur voafrique.com.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme International Music, Comedy et Country Music. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écoutez de la bonne musique et partagez vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001 202 619 3140. Vos SMS et WhatsApp au 001 703 350 37 31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Josèle Morissin a assuré la mise en onde avec l'assistance technique de Joe Gill à la console. Présentation Morgane Guerriec et Chérubin Gabidorcil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.